Quel est l'impact de nos gestes quotidiens face à la pollution à grande échelle de nos industries, ou en clair, petits gestes, grands effets? Est-ce que ça marche? Est-ce que la fin des touillettes ou le retour des consignes, c'est à la hauteur des enjeux, Thierry Pech?
Les gestes quotidiens, ça compte beaucoup. Et d'ailleurs, quand ils sont mauvais, on s'en aperçoit très vite. Et ils ont été très longtemps très mauvais. La société de consommation de masse qui s'est mise en place dans les années 60 a promu pour beaucoup de gens de très mauvais gestes. On a acheté des tas de choses jetables, on a détruit des ressources naturelles sans se poser de questions. Donc inversement, aujourd'hui, il faut promouvoir des gestes positifs, des gestes qui vont permettre d'atténuer le réchauffement climatique, voire de lutter efficacement contre. Ça suffit pas. On peut pas dire aux gens, si vous êtes tous parfaits, tout sera parfait. Il y a bien sûr des politiques publiques, et il faut faire des efforts financiers, il faut faire des investissements, il faut faire de bonnes incitations. Mais les gestes individuels comptent. Et il suffit d'ailleurs pour ceux qui prennent l'avion d'arrêter de le prendre et leur bilan carbone s'améliore beaucoup, par exemple. Il suffit de manger un peu moins de viande, quitte à manger de la meilleure viande et l'acheter un peu plus cher. Et ça a un effet sur les émissions de gaz à effet de serre.
C'est très bien, les gestes du quotidien. Mais moi, je pense qu'il n'y a que des politiques publiques globales qui peuvent inciter massivement les gens à changer leur comportement. J'aime beaucoup la morale et la philosophie, si vous voulez. Mais je pense que s'appuyer sur la morale et sur les comportements citoyens pour régler le problème de l'urgence climatique, je pense que
des politiques publiques punitives, si on vous suit bien. Il faut punir, en tout cas responsabiliser, voire culpabiliser les citoyens.
C'est pas forcément punitif si vous faites un marché du carbone. Marché du carbone, est-ce que c'est plus ou moins punitif que la taxe sur les billets d'avion qui vient d'être annoncée par le gouvernement? Non, c'est juste une façon plus globale et sans doute plus efficace de faire les choses.
En fait, le système actuel, en l'état, il est punitif. Le système actuel, en l'état, il est destructeur. Il est destructeur de l'écosystème, il est destructeur des sols, de l'air, des eaux. Il est destructeur de la santé des personnes qui sont exposées à ces pollutions plastiques, à commencer par ces travailleurs des charges des pays du sud-est asiatique. Donc c'est vrai que dire, vous voyez, stigmatiser ce type de réforme en disant c'est punitif, c'est vraiment avoir une vision, c'est ne regarder que la moitié du problème et du point de vue des privilégiés que nous sommes.
L'économie circulaire, il y a des pays, il y a un pays en tout cas, en Europe, où ça marche, Hélène?
Et oui, il s'agit du pays, vous allez le reconnaître, qui vise la neutralité carbone pour 2045, l'Eldorado vert de l'Europe. Donc, bien sûr, la Suède, qui donne un exemple en matière d'économie circulaire. D'abord, l'économie circulaire, on rappelle, le principe, c'est simple, gâcher et gaspiller le moins possible pour récupérer et réparer le plus possible. L'an dernier, le gouvernement suédois a voté une loi qui a mis un bon coup de pied dans la fourmilière de la surconsommation, avec un credo: plus on répare et moins on paye d'impôts. Désormais, les Suédois qui consomment, qui bricolent eux-mêmes ou qu'ils aillent faire réparer leurs biens endommagés au lieu de courir les magasins sont récompensés avec des crédits d'impôt. Et ce n'est pas tout. Les taxes sur la main-d'œuvre concernées par ce business de la réparation sont en baisse. Baisse aussi pour les taxes sur les pièces détachées. Alors, ça devient évidemment plus rentable pour le consommateur suédois, finalement, de réparer du vieux plutôt que d'acheter du neuf. La Suède remet au goût du jour la récup et le bricolage. Alors, c'est vrai que cette politique a un coût. 20 millions d'euros pour les crédits d'impôt, 28 pour la baisse de la TVA. Mais le gouvernement suédois lui a fait ses calculs. Moins de gaspillage, moins de pollution, ça permet de faire des économies. La France, on peut le rappeler, tous les ans, à cause de la pollution, dépense 100 milliards d'euros. Relancer l'économie circulaire peut donc se révéler rentable à terme. Au passage, ça peut même créer des emplois. Ça, c'est le pari de la Suède. Thierry Pech, est-ce que le bricoler soi-même, la récup, tout ça, est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est une solution?
Une solution, naturellement. Enfin, plus on augmente la durée de vie des objets et des biens, moins on puise sur les ressources naturelles.
Une partie de notre économie est fondée sur l'obsolescence programmée et sur le jetable. Et donc, comment on arrive à articuler les deux? Parce que là, on est face à une contradiction.
Non, cette économie disparaîtra et c'est formidable. Parce que l'économie du 21e siècle, c'est pas l'économie.
Mais par exemple, votre portable, vous allez le changer dans deux ans.
L'économie
de l'obsolescence programmée va disparaître parce qu'elle est elle-même d'obsolescence programmée.
Mais attendez, la réparation, c'est formidable. C'est un secteur formidable qui va exploser. Ça crée plein d'emplois. Et alors, je vais peut-être pas le montrer, mais cet objet qu'en effet j'avais tendance à renouveler trop souvent. Je peux déjà le faire réparer. Et le magasin dans lequel je vais réparer, il ne désemplit pas. Et c'est très intéressant quand on réfléchit aussi aux questions d'aménagement du territoire, parce que les magasins de réparation, on en trouve beaucoup dans des centres de villes moyennes qui ont un peu de difficultés, dans des endroits où il y a eu de la désindustrialisation, par exemple. Donc, si vous voulez, vous avez en permanence des nouveaux systèmes économiques qui remplacent d'anciens systèmes économiques. Et je trouve formidable, et je pense que c'est moderne, et je le dis en tant que libéral, que l'économie circulaire se substitue à l'économie de l'obsolescence programmée. Mais par contre, il faudra former les gens, il y a des investissements, ça ne se fera pas tout seul.
Jadeline Garde, ça va avec le système capitaliste, ça ?
Mais réparer, c'est absolument nécessaire. Réparer, garder les choses plus longtemps, c'est absolument nécessaire. Ça, je pense que c'est vraiment très consensuel. Ce qui moi, me paraît beaucoup plus illusoire et voire dangereux comme idée, c'est l'idée d'une circularité de l'économie. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on peut incessamment, infiniment recycler et toujours recycler, et que donc on peut continuer à produire, 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 puisqu'on pourra toujours tout recycler. Ça, c'est très dangereux comme idée parce que c'est faux. Et il y a mille exemples. Le papier ne peut pas être recyclé à l'infini, le plastique ne peut pas être recyclé à l'infini. Le recyclage, en fait, de tous ces produits passe par des systèmes d'exploitation des plus pauvres, des plus précaires, des pays les plus pauvres, passe par énormément d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution, puisque tous ces matériaux sont recyclés dans des pays lointains. C'est transporté dans des grands bateaux très lourds qui sont très polluants, qui ne sont pas régulés par l'accord de Paris sur le climat.
Donc pour vous, il faut forcément produire moins.
Il faut produire moins, il faut relocaliser, l'activité sur les territoires.
Je pense qu'il y a un consensus croissant et assez fort en France sur le péril climatique, mais qu'il n'y a pas du tout de consensus sur les solutions qu'on pourrait apporter à ce problème.
Nicolas Bouzou, comment on est passé de ce qui était évoqué comme une espèce de temps béni de la consommation à la vision beaucoup plus sombre que l'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qui a déraillé pour que cette consommation devienne folle?
Ce qui nous a complètement piégé, c'est d'une part une croissance économique extrêmement forte qui nous a emmené dans ce qu'on appelle le vouloir d'achat, une espèce de volonté de consommer de façon déconnectée de ses véritables besoins, et puis une abondance de matières premières, d'air pur, de ressources naturelles, si vous voulez, mais qui est une abondance qui était fictive puisqu'il n'y avait pas de prix.
On a changé de monde, faut pas faire de la transition écologique un monde de la nostalgie et du regret, parce qu'on n'arrivera à rien. Simplement, il y a des questions radicales qui se posent, notamment au capitalisme. Je voudrais juste dire une chose là-dessus. Le capitalisme est un être plastique. C'est un système extrêmement changeant dans
il
le temps.
Qui s'adapte.
Mais attendez, il s'adapte si on lui impose des contraintes. Aujourd'hui, la question qui se pose au capitalisme, c'est ça. C'est les images qui passent derrière vous. Est-ce qu'il va savoir faire avec ça? S'il ne sait pas, c'est fini.